Bonjour et bienvenue dans la quatrième dimension. Et nous allons donc commencer la deuxième partie sur le livre tibétain de la vie et de la mort. Alors je rappellerai juste que le livre tibétain de la vie et de la mort est le Bardo Todol en tibétain. Et ce livre est écrit par Sogyal Rinpoche aux éditions du Livre de Poche. C'est l'édition de 2003. Voici l'introduction de Sogyal Rinpoche au livre. J'aimerais dédier ce livre à Jamyang Khyentse Shoki Lotro, Dudjom Rinpoche, Dilgo Khyentse Rinpoche, Nyoshul Ken Rinpoche, Khyentse Sangyum Khandro Tsering Shodron, et à tous mes maîtres bien-aimés qui ont été l'inspiration de ma vie. Puisse ce livre être un guide vers la libération, puisse-t-il être lu par les vivants, être lu aux mourants et à l'intention des morts. Puisse-t-il aider tous ceux qui le liront et les stimuler dans leur cheminement vers l'éveil. Dans la première partie, nous avons vu l'avant-propos du Dalai Lama, ainsi que la préface de Sogyal Rinpoche. Voici donc la première partie du livre. Elle s'intitule « La vie ». Le chapitre 1. Le miroir de la mort. J'avais 7 ans environ lorsque je fus pour la première fois confronté à la mort. Nous nous préparions à quitter les montagnes de l'Est pour gagner le Tibet central. Samten, l'un des assistants personnels de mon maître, était un moine merveilleux qui m'avait témoigné de la bonté durant mon enfance. Son visage épanoui, rond et joufflu, était toujours prêt à s'éclairer d'un sourire. Son caractère jovial faisait de lui le favori de tous au monastère. Chaque jour, mon maître donnait des enseignements, des initiations, et dirigeait des pratiques spirituelles et des rituels. Vers la fin de la journée, j'avais l'habitude de réunir mes amis et de donner une petite représentation des événements de la matinée. Et c'était toujours Samtem qui me prêtait les costumes que mon maître avait portés le matin. Il ne me disait jamais non. Et puis, soudain, Samten tomba malade. Il devint évident qu'il n'allait pas survivre. Nous dûmes retarder notre départ. Jamais je n'oublierai les 2 semaines qui suivirent. L'odeur de la mort planait sur tout, comme un nuage. Et chaque fois que je pense à cette époque, la même odeur me revient. Le monastère était totalement imprégné d'une intense conscience de la mort. Toutefois, il n'y avait là rien de morbide ou d'effrayant. En présence de mon maître, la mort de Samten prenait une signification toute particulière. Elle devenait un enseignement pour nous tous. Samten était allongé sur un lit près de la fenêtre, dans un petit temple à l'intérieur de la résidence de mon maître. Je savais qu'il vivait ses derniers instants. De temps à autre, j'entrais et allais m'asseoir près de lui. Il ne pouvait plus parler. Ses traits étaient maintenant très tirés, hagards. Et ce changement me bouleversait. Je comprenais qu'il allait nous quitter et que nous ne le reverrions jamais plus. Je me sentais triste et profondément seul. La mort de Samten ne fut pas aisée. Ne fut pas aisée. Le son de sa respiration laborieuse nous poursuivait partout, ainsi que l'odeur provenant de la détérioration de son corps. Hormis le bruit de cette respiration, un silence absolu régnait dans le monastère. Toute l'attention était focalisée sur Samten. Pourtant, bien qu'il y eût tant de souffrances dans cette mort qui n'en finissait pas, nous pouvions tous sentir qu'au plus profond de lui, Samten était habité par la paix et la confiance intérieure. Au début, je ne pouvais m'expliquer d'où celle-ci provenait, mais par la suite, je réalisais que c'était sa foi, son entraînement spirituel et la présence de notre maître qui les lui donnait. Et malgré ma tristesse, je savais que si notre maître était là, tout irait pour le mieux, car il serait capable de guider Samten vers la libération. Par la suite, j'appris que le rêve de tout pratiquant est de mourir avant son maître et de connaître la chance exceptionnelle d'être guidé par lui au moment de la mort. En guidant paisiblement Samten durant sa mort, Jamyang Khyentse l'introduisait aux différentes étapes du processus qu'il traversait, l'une après l'autre. La précision de sa connaissance, son assurance et sa paix me stupéfiaient. Sa présence ferme et tranquille aurait rassuré la personne la plus angoissée. À présent, Jamyang Khyentse nous révélait son équanimité devant la mort. Non qu'il l'eût jamais traité à la légère, il nous avait souvent dit qu'il la redoutait et mis en garde contre le fait de l'envisager avec naïveté ou sous-suffisance. Je me demandais ce qui lui permettait de l'affronter avec tant de sobriété et de légèreté de cœur, et d'être en même temps si pragmatique et si étrangement serein. Cette question me fascinait et m'absorbait. La mort de Samten m'ébranla. À l'âge de 7 ans, j'entrevis pour la première fois l'immense pouvoir de la tradition dans laquelle j'entrais et commençais à comprendre le but de la pratique spirituelle. C'était la pratique qui avait permis à Samten d'accepter la mort, et également de comprendre clairement que la souffrance et la douleur. Peuvent faire partie d'un processus profond et naturel de purification. C'était la pratique qui avait donné à mon maître une connaissance complète de ce qu'est la mort, ainsi qu'un savoir-faire précis pour guider les êtres lors de cette transition. Alors que Samten nous eut quittés, nous nous mîmes en route pour Lhasa, capitale du Tibet. Il nous chevauchâmes durant 3 mois en suivant un itinéraire tortueux. De là, nous poursuivîmes notre pèlerinage vers les cités sacrées du centre et du sud du pays, ces lieux bénis par les saints, les rois et les érudits, qui établirent à partir du 7e siècle le bouddhisme au Tibet. Mon maître était l'émanation de nombreux maîtres, de toutes les traditions, et sa réputation était telle qu'il recevait un accueil enthousiaste partout où nous allions. Pour moi, ce voyage fut passionnant et il m'en reste un souvenir extraordinaire. Les Tibétains se lèvent de bonne heure afin de profiter au maximum de la lumière naturelle. Nous nous couchions au crépuscule, nous levions avant l'aube. Et dès les premières lueurs du jour, les yaks, chargés de bagages, se mettaient en route. Puis les tentes étaient démontées, celles de la cuisine et de mon maître restant dressées jusqu'au dernier moment. Quelqu'un partait un éclaireur afin de choisir un bon emplacement pour établir le camp. Et aux environs de midi, nous y faisions halte jusqu'au lendemain. J'aimais beaucoup camper près d'une rivière et écouter le bruit de l'eau, ou m'asseoir sous la tente et entendre le crépitement de la pluie du toit. Nous formions un petit groupe d'une trentaine de tentes. Dans la journée, je montais un alizan doré aux côtés de mon maître. Tandis que nous chevauchions, il enseignait, racontait des histoires, se consacrait à ses pratiques spirituelles et en composait de nouvelles à mon intention. Un jour, comme nous approchions du lac sacré de Yamdrok Tso et découvrions au loin le miroitement turquoise de ses eaux, un autre lama de notre groupe, lama Tseten, arriva lui aussi au seuil de la mort. La mort de Lama Tseten s'avéra pour moi un autre enseignement important. Il était le tuteur de l'épouse spirituelle de mon maître, Khandro Tsering Chodron. Elle vit encore aujourd'hui, et beaucoup la considèrent comme la pratiquante la plus remarquable du Tibet, un maître secret. Elle représente, à mes yeux, la dévotion personnifiée, la simplicité de sa présence rayonnante d'amour, est en elle-même un enseignement lama. Lama Tseten était un personnage profondément humain, l'image même du grand-père. Il avait dépassé la soixantaine, était assez grande taille et avait les cheveux grisonnants. Une douceur naturelle émanait de son être. Il était aussi un pratiquant de méditation hautement accompli. Le simple fait d'être à ses côtés suffisait à faire naître en moi un sentiment de paix et de sérénité. Parfois il me grondait, et j'avais alors peur de lui, mais malgré cette sévérité occasionnelle, il ne se départait jamais de sa chaleur. Lama Tseten mourut d'une façon extraordinaire. Bien qu'il y eut un monastère à proximité, il refusa de s'y rendre, déclarant qu'il ne voulait pas encombrer ces lieux d'un cadavre. Nous fîmes donc halte pour camper et dressâmes nos tentes en cercle, comme à l'accoutumée. Puisque Lama Tseten était son tuteur, c'était Khandro qui s'occupait de lui et le soignait. Elle et moi étions seuls avec lui dans sa tente lorsqu'il la fit soudain venir auprès de lui. Il avait une façon affectueuse de l'appeler « Ami », ce qui, dans son dialecte, signifiait « mon enfant ».« Ami », lui dit-il tendrement, « approche-toi. Le moment est venu. Je n'ai plus de conseils à te donner. Tu es bien belle que tu es. Tu es bien telle que tu es. Je suis content de toi. Continue à servir ton maître, comme tu l'as fait jusqu'à présent. » Khandro se détourna aussitôt pour courir hors de la tente, mais il la saisit par la manche. « Où vas-tu » demanda-t-il. « Je vais appeler Rinpoche, » répondit-elle. « Ne va pas l'ennuyer, ce n'est pas la peine. » Il sourit. « Avec le maître, la distance n'existe pas. » À ces mots, il leva simplement son regard vers le ciel et expira. Khandro dégagea sa main et se précipita au dehors pour appeler mon maître. Je demeurai assis, cloué sur place. J'étais stupéfait de voir que quelqu'un pouvait faire preuve d'une telle confiance au moment de son face-à-face avec la mort. Lama Tseten aurait pu avoir son lama en personne auprès de lui pour l'aider, ce que quiconque aurait ardemment désiré. Mais il n'en avait pas éprouvé le besoin. Aujourd'hui, j'en comprends la raison. Lama Tseten avait déjà réalisé la présence du maître en lui-même. Jamyang Khyentse demeurait continuellement avec lui, présent dans son esprit et dans son cœur. Pas un seul instant, il ne ressentait de séparation. Tandro partit néanmoins à la recherche de Jamyang Khyentse. Je n'oublierai jamais la façon dont celui-ci se courba pour pénétrer dans la tente. Il jeta un coup d'œil au visage de Lama Tseten, puis, examinant attentivement ses yeux, il eut un rire amusé. Il l'avait toujours appelé la Jen, vieux lama, un signe d'affection. La Jen, lui dit-il, ne reste pas dans cet état. Jamyang Khyentse pouvait voir, je le comprends aujourd'hui, que Lama Tseten faisait alors une pratique particulière de méditation, au cours de laquelle le pratiquant unit son esprit à l'espace de la vérité. Il peut demeurer dans cet état un grand nombre de jours à sa mort. La Jen, nous sommes des voyageurs, nous sommes des pèlerins. Nous n'avons pas le temps d'attendre trop longtemps. Viens, je vais te guider. Sidéré, j'observais la suite des événements et, si je ne l'avais vu de mes propres yeux, jamais je ne l'aurais cru. Lama Tseten revint à la vie. C'est alors que mon maître s'assit à son chevet et le guida à travers le Powa, la pratique destinée à diriger la conscience à l'instant qui précède la mort. Il existe de nombreuses manières d'accomplir cette pratique. Celle qu'il utilisa alors culmine lorsque le maître prononce la syllabe A à trois reprises. Lorsque mon maître émit le premier A, nous pûmes entendre très distinctement Lama Tseten l'accompagner. La deuxième fois, sa voix était moins audible et la troisième, elle s'était tue. Lama Tseten s'en était allé. Si la mort de Tsamten m'avait enseigné le but de la pratique spirituelle, celle de Lama Tseten m'a appris qu'il n'est pas inhabituel pour des pratiquants de son envergure de dissimuler de leur vivant leurs qualités remarquables. Il arrive qu'ils ne le révèlent qu'une seule fois, au moment de leur mort. Je compris, malgré mon jeune âge, qu'il existait une différence frappante entre la mort de Tsamten et celle de Lama Tseten. Je réalisais que c'était la différence entre la mort d'un bon moine qui avait pratiqué sa vie durant et celle d'un pratiquant ayant atteint une réalisation beaucoup plus élevée. Tsamten était mort de façon ordinaire dans la douleur, soutenu cependant par la confiance que donne la foi. La mort de Lama Tseten fut, elle, une manifestation de maîtrise spirituelle. Peu de temps après les funérailles de Lama Tseten, nous montâmes jusqu'au monastère de Yamdrok. Comme j'en avais l'habitude, je dormis auprès de mon maître dans sa chambre. Et je me souviens avoir, cette nuit-là, regardé les ombres des lampes à beurre vaciller sur le mur. Tandis que tout le monde dormait profondément, je restais éveillé et pleurais toute la nuit. Je compris alors que la mort est une réalité et que moi aussi, il me faudrait quitter ce monde. Allongé sur mon lit, je songeais à la mort, à la mienne en particulier. Peu à peu, un sentiment profond d'acceptation commença à émerger de cette grande tristesse et avec lui, la résolution de consacrer ma vie à la pratique spirituelle. C'est donc très jeune que je fus confronté à la mort et ses implications. Jamais alors je n'aurais pu imaginer la diversité des morts qui allaient suivre, l'une s'ajoutant à l'autre. Celle que fut la perte tragique de mon pays, le Tibet, après l'occupation chinoise. Celle que fut l'exil. Celle que représenta la disparition de tout ce que ma famille et moi-même possédions. Ma famille, les Lakart Sang, comptée parmi les plus fortunés du Tibet. Depuis le XIVe siècle, elle était connue comme l'un des plus grands bienfaiteurs du bouddhisme, soutenant l'enseignement du Bouddha et aidant les grands maîtres dans leurs œuvres. Cependant, la mort la plus bouleversante de toutes était encore à venir. C'était celle de mon maître, Jamyang Khyentse. En le perdant, je sentis que j'avais perdu le fondement même de mon existence. C'était en 1959, l'année de la chute du Tibet. Pour les Tibétains, la disparition de mon maître fut un second coup qui les accabla. Pour le Tibet, elle marqua la fin d'une époque.